Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. La contestation gronde au Nigeria. Depuis deux semaines, le pays est secoué par des manifestations à l'appel d'une jeunesse qui n'en peut plus des violences policières. Et la colère s'est exacerbée après les tirs à balles réelles de la police mardi soir à Lagos sur un sit-in pacifique au péage de Lekki. Bilan selon Amnesty International, 12 morts, 56 au total depuis le début du mouvement de protestation. Pluie de condamnations dans le monde entier, rassemblement de soutien de Pretoria à Accra en passant par Londres. C'est une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui a tout déclenché le 3 octobre. On y voyait des policiers présumés de la SARS, la brigade spéciale de répression des vols, abattre un homme à Yougeli dans l'état du Delta. Dans la foulée, des milliers d'internautes ont raconté les dérapages de la SARS, rackets, arrestations illégales, tortures et même meurtres. Le hashtag #EndSARS, en finir avec la SARS, est devenu l'un des plus partagés au monde, avec le soutien de stars nigérianes comme Davido, Burna Boy, Wizkid, mais aussi de stars américaines comme Beyoncé ou Rihanna. Depuis, le président nigérian Muhammadu Buhari a dissous la SARS et promis une réforme de la police. Des annonces qui n'ont pas calmé les manifestants, toujours plus nombreux dans les grandes villes. Le mouvement s'est mué en fronde inédite contre le pouvoir. Face aux pillages, destructions, incendies, les gouverneurs de sept États ont décrété un couvre-feu total ou partiel. Jusqu'où ira cette contestation? Le régime Buhari est-il menacé? Le pouvoir va-t-il rester sourd aux revendications des manifestants ou lâcher du lest? On ouvre le débat et on commence avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour madame, comment allez-vous?
Très bien, merci beaucoup. Vous êtes bénino-nigérian et vous habitez Lagos. Emmanuel, est-ce que vous êtes allé manifester mardi soir?
Non, mardi soir, non, je n'y étais pas. Je suis un peu trop loin de Lekki, mais j'étais dans la manifestation dans mon quartier.
Alors, vous-même, est-ce que vous avez été victime de la SARS, cette unité de police dont le président Buhari a annoncé la dissolution, ou est-ce que vous avez des amis qui ont été victimes des brutalités de la SARS?
Personnellement, non, je n'ai pas été victime et je remercie le ciel. Mais les amis, oui, j'en ai beaucoup qui ont été vraiment victimes de cette unité de police, une unité vraiment violente. C'est vrai, quand vous voyez ça, monsieur, on vous regarde et on vous regarde seulement par apparence physique, on dit bon, vous êtes un voleur, vous êtes un anarchiste, c'est tout. Donc c'est quelque chose qui est très spéculatif avec eux, on ne sait pas réellement à qui le tout quand vous marchez dans la rue. C'est ça le problème avec ça.
Alors maintenant que la dissolution de la SARS a été annoncée, sur quoi portent les revendications des manifestants?
Mais la réalité est que le mouvement contre la SARS, c'est juste un peu comme un symptôme. Le problème est beaucoup plus profond. Donc il faudrait vraiment adresser la cause pourquoi les jeunes nigériens se manifestent. Et je vais vous dire que pour une première fois, je vois les jeunes s'unir au-delà des clivages ethniques et religieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc le problème est beaucoup plus profond. C'est social. Et c'est la pauvreté, la malgouvernance. C'est ça ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui.
Et qui dirige ce mouvement de contestation? Au départ, il y avait beaucoup de jeunes à marcher pacifiquement dans les rues des grandes villes. Est-ce qu'ils ont été rejoints désormais par d'autres catégories de population?
Oui, un peu comme un peu de tout. Hein. Vous voyez, surtout ici à Lagos, vous voyez de toutes les catégories, même catégories d'âge en fait. J'ai vu de vieux monsieur qui se sont joints aux manifestants. Donc c'est comme si tout le monde est vraiment intéressé parce que la vieille génération a vraiment trahi, c'est ce qu'on dit ici, a trahi la jeune génération. Et ceux qui regrettent dans cette vieille génération sont aussi venus nous joindre. Et donc c'est un mouvement de foule et qui part de toute forme.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du pouvoir et du président Buhari en particulier?
Le mieux pour Buhari, peut-être, la première chose, c'est que la police l'unité de la police qui dit avoir dissous, donc les mêmes autorités policières qui sont en place, qui font le job, c'est ceux justement qu'il faudrait d'abord enlever.
Ah, une voiture qui passe? Ou c'est un train peut-être? Emmanuel,
oui,
vous êtes toujours là?
Oui, je suis là. Donc, je disais qu'il faudrait que d'abord le chef de la police n'a qu'à partir puisqu'il n'est plus, il n'a plus la légitimité pour pouvoir justement apporter ces réformes que les Nigériens demandent. Et on demande que les brutalités policières cessent. Et voici justement, c'est en rapport avec la brutalité. Donc, ce n'est plus légitime pour lui de rester. Ça peut être peut-être une très bonne action de la part de Buhari s'il peut le faire.
Merci beaucoup Emmanuel. Bonne journée à Lagos. Alors la situation au Nigeria est observée avec attention évidemment par le Bénin voisin. Paulin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en ligne de Cotonou. Alors comment vous réagissez à ce qui se passe au Nigeria, à cette contestation qui ne cesse de grandir depuis presque deux semaines?
Alors d'abord, je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes et rester solidaire avec le peuple, notamment la jeunesse nigériane. Ce que je voulais dire, c'est que cette crise que nous observons actuellement, ce n'est que, la crise est partie d'une violence policière, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La situation, comme le disait celui qui m'a précédé, là, c'est beaucoup plus profond, à savoir que vous savez très bien que depuis plus d'un an, le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin, par exemple, où en son temps, c'était dit que c'est parce que le Bénin organiserait une réexploitation sur son territoire. Mais ce qui n'est pas juste, parce que en fait, les auteurs même de de l'importation de ces produits sur le territoire nigérien, ce sont les Nigériens, en grande partie ce sont les Nigériens eux-mêmes. Donc, c'est une source de revenus en moins, la fermeture de la frontière, c'est une source de revenus en moins. Vous savez très bien, si je prends le riz, actuellement, le Nigeria a beaucoup de difficultés à couvrir les besoins de sa population en riz. Donc, la quantité qui est disponible, d'abord, les études ont montré qu'elle n'est pas de bonne qualité et elle est chère. Donc, tout ça, il y a des emplois, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, et dû à cette décision unilatérale. Donc, je pense que il y a un mélange de faits qui ne sont pas en faveur, n'est-ce pas, du régime actuel. Et je crois que si des actions hardies ne sont pas prises très rapidement, nous risquons d'aller au pire.
Merci beaucoup, Paulin, de nous avoir appelé de Cotonou. En ligne de Kinshasa, Jean-Patrice, bonjour.
Bonjour.
Jean-Patrice, est-ce que vous aviez senti venir cette vague de contestation inédite contre le pouvoir au Nigeria?
Oui, nous l'avons senti. Nous l'avons senti, nous l'avons vu venir avec toutes les crises sociales, les jeunes gens qui n'ont pas d'emploi, et des dépenses extravagantes de la part de leadership et qui s'accroît, des dépenses ostentatoires qui sont exhibées aux yeux au-dessus des jeunes qui sont sans emploi. Ben, il suffit, c'est une allumette qui allume toute la maison, quoi.
Vous dites que la corruption, on la vit tous les jours. Parce que je précise, cela fait 35 ans que vous vivez au Nigeria, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Je suis au Nigeria depuis 36 ans. Et c'est chaque jour que l'on voit les politiciens qui vous distribuent de l'argent pendant qu'on ne peut pas se permettre de payer le salaire minimum de 18 000 naira. Et il y a des politiciens qui s'arrogent des subsides pour l'habillement, des subsides pour la nourriture, des subsides pour les transports. Et ça en termes des millions et des millions. Alors, pour que tout brûle, il s'en prend juste une étincelle, quoi.
Alors, Mouhamadou Bouhari a dissous la SARS, cette brigade tant détestée par la population pour ses méthodes brutales, et le mot est faible. Le président nigérian a promis dans un communiqué hier matin de réformer la police et il a appelé au calme, sans dire un seul mot de ce qui s'est passé mardi soir au péage de Lekki. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Ce silence autour de cette répression extrêmement brutale de la police mardi soir, puisqu'elle elle aurait fait, selon Amnesty, une douzaine de morts.
Mais il y a des frustrations qui sont internalisées par pratiquement toutes les couches sociales qui ne bénéficient pas, qui n'ont pas bénéficié directement de toute la manne pétrolière. Le manque d'investissement parallèle l'économie C'est ça que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Le silence du président n'aide certainement pas dans cette situation parce que les jeunes gens sont frustrés. Bon, j'apprends qu'il y a eu une douzaine de tués au péage à Lagos, mais il y en a aussi probablement qui ont eu lieu à Ottawa dans Augustet. Et donc, ici, le président doit sortir et parler. Il doit s'adresser à la population nigérienne. Et la réforme de la police, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Il y a plusieurs choses qu'il faudrait réformer. Entre autres, par exemple, ce qu'on appelle les droits, les salaires des politiciens. Tout ça doit être revu. Il faut une justice distributive un peu beaucoup plus profonde qu'elle ne l'est maintenant.
Merci beaucoup, Jean-Patrice. Bonne journée à Kinshasa. Mamadou, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bamako, Mali. Est-ce que vous vous sentez concerné par les événements du Nigeria ?
Oui, bien sûr, en tant que jeune Africain, voilà, je me dois d'être interpellé par ce qui se passe au Nigeria, parce que nous avons quand même une douzaine de morts sous la main. Et l'Afrique, de façon générale, et l'Afrique de l'Ouest ne peut pas continuer dans cette spirale de violence, où pour un oui ou pour un non, voilà, on va continuer à tuer, à donner la mort à de jeunes innocents qui ne font que réclamer leurs droits.
Quel rôle jouent les réseaux sociaux aujourd'hui dans la mobilisation populaire ? Est-ce que, grâce à eux, les populations en colère ont plus de chances de se faire entendre de leurs dirigeants ?
Bien évidemment. C'est le même phénomène est observé dans quasiment tous les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et bien entendu le Nigeria. D'abord, les réseaux sociaux permettent une plus rapide de conscience des masses, parce que les gens voient de plus en plus ce qui se passe autour d'eux, qu'est-ce que les gouvernants font, et puis c'est une façon beaucoup plus rapide de dénoncer les dérives en termes de mauvaise gouvernance ou en termes de corruption. Donc, c'est un paramètre que les dirigeants devraient intégrer. Les jeunes de 2020 n'ont rien à voir avec ceux des années 90 ou des années 80. Les temps ont changé, l'information va vite et c'est des paramètres qu'il faut intégrer aujourd'hui et répondre fondamentalement aux aspirations de cette jeunesse bouillante que nous avons. Parce que la majorité de la population est très jeune. Et si nous ne réglons pas ces problèmes, malheureusement, nous allons assister de plus en plus à des explosions de ce genre. Je pense que j'ai fait le rappel au standard. En 2005, déjà à Bamako, lors du sommet Afrique-France, il y a Marie-Louise Tamalifo, une Camerounaise qui représentait la jeunesse africaine, qui avait interpellé les chefs d'État africains à l'époque. Occupez-vous de la jeunesse, sinon la jeunesse africaine viendra s'occuper de vous. Je pense que malheureusement, c'est cela qui est en train de se passer sous nos yeux et il est temps qu'on réponde à ces préoccupations-là.
Merci beaucoup, Mamadou. Bonne journée à Bamako. En ligne de Pointe-Noire, Béranger, bonjour.
Bonjour.
Que doit faire, selon vous, le pouvoir nigérian pour ramener le calme alors que la colère se propage à tout le pays ? Pays, il faut le rappeler, le plus peuplé d'Afrique, 195 millions d'habitants au Nigeria.
Avant tout, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des 50 victimes, 50 personnes innocentes qui ont perdu la vie parce que la police se croit être déçue des droits civiques. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que le gouvernement nigérian devait poser des actes plus forts. Déjà, traduire ces policiers en justice, parce qu'ils ne sont pas hors la loi. Ils doivent répondre de leurs actes. Dissoudre cette structure de SARS.
Apparemment, ça c'est fait. Le président Bouhari a dit que la dissolution de la SARS était effective.
Ok, ça c'est déjà bien. Et traduire ces présumés coupables devant le tribunal, qu'ils répondent de leurs actes, parce que personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre humain. La vie est sacrée. On ne devrait pas être tué dans la rue parce qu'on revendique quelque chose. Ce n'est pas normal. On condamne cela de la plus grande énergie possible. Et aussi, le problème du Nigeria, c'est comme l'a dit le prédécesseur, c'est ce problème de distribution de richesses. Vous savez, c'est le plus grand producteur pétrolier en Afrique subsaharienne, mais j'ai travaillé au Nigeria pendant 2 ans à Port-à-Courte. C'est l'un des rares pays où vous trouvez des inégalités incroyables. Il y a un petit groupe très très riche et d'autres sont très très pauvres. C'est ce pays-là où vous avez un sol immensément riche, mais les gens sont incapables de prendre ces richesses et de distribuer de façon équitable. Moi, je savais que tôt ou tard, on arriverait à ça. Il y a trop d'injustices au Nigeria, comme dans la plupart des pays francophones.
Et
c'est
ça
le problème.
Et le Nigeria a longtemps vécu au rythme des coups d'État. Est-ce que ce scénario pourrait se répéter, selon vous, si le pouvoir actuel ne lâche pas du lest?
Je ne pense pas. Le Nigeria a quand même marqué un cap avec la transition pacifique entre Jonathan et Buhari actuellement. Et faire un coup d'État, ça va ramener encore des années de militaires, de guerre. Ça sera par leur avantage. Je pense que le gouvernement actuel devrait s'asseoir avec la société civile, faire un dialogue, un cahier de charges est établi, on se fixe des délais et on va de l'avant. C'est ce qu'il faut faire. Écouter les revendications autour d'une table, considérer cela et faire un cahier de charges, un protocole d'accord signé et qu'on arrête toute violence policière. On ne devrait pas tuer les gens dans les rues.
Merci beaucoup pour cette prise de parole. Béranger, bonjour, vous êtes en ligne de Pointe-Noire. Ah pardon Béranger, merci à vous, hein, je me suis un peu emmêlé les pinceaux pour parler familièrement entre les auditeurs. Donc Béranger, merci d'avoir participé à l'émission. On va prendre Abdelkader qui nous attend au standard. Abdelkader, bonjour.
Bonjour, RFI.
Voilà, vous nous appelez de Berne, en Suisse. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, au Nigeria, on a davantage peur de la police que des voleurs?
Non, c'est tout celui qui connaît le Nigeria, c'est pas un tabou pour les gens, tout le monde le sait très bien. En fait, je ne sais pas sur quel critère le Nigeria se base pour recruter les forces de l'ordre ou la police. Mais tout le monde sait qu'on a plus peur au Nigeria de rencontrer un porteur de tenue que de rencontrer un brigand.
On a peur des porteurs d'uniformes, c'est ça?
Ah oui, exactement.
Et la dissolution de la SAR, cette fameuse brigade qui a été donc dissoute par le président Buhari, c'était la première revendication des jeunes qui sont descendus dans la rue début octobre. Pour vous, c'est insuffisant, il faut aller beaucoup plus loin.
Ah, il faut aller beaucoup plus loin, je suis sûr et certain. La dissolution de la SAR, ça ne suffit pas à elle seule. Il faut vraiment une réforme très profonde qui prendra beaucoup de temps dans toutes les structures de porteurs de tenue au Nigeria.
Merci Abdelkader. Brice-Dette nous appelle d'Arras. Bonjour Brice-Dette.
Oui, bonjour à l'ensemble de RFI.
Est-ce qu'à votre avis, le président Buhari a pris la mesure de la crise?
Je pense que oui, en décidant de dissoudre cette police qui tue, qui a tué, je pense que c'est un pas en avant.
Mais en même temps, on lui reproche son silence depuis bientôt une semaine.
Oui, mais malheureusement, ce qui se passe au Nigeria, se passe dans beaucoup de pays africains. La répression policière est devenue un peu, excusez-moi du terme, banale, dans la mesure où tous les pays africains, dans la majorité des pays africains, la répression est devenue un outil que les dirigeants utilisent pour mater la population, contre la population. Quand le peuple revendique ses droits, revendique quelque chose, la première réaction des autorités, c'est d'envoyer la police qui tire à balles réelles. Et malheureusement, une fois qu'ils ont tiré, une fois qu'ils ont tué, la justice ne fait pas son travail. Les assassins ne sont jamais traduits devant les tribunaux. On verra pour le cas du Nigeria, je ne pense pas. Et le silence du président Buhari, effectivement, pour un président qui a été démocratiquement élu, comme le président Buhari qui a toujours pris la parole à chaque fois qu'il y a des situations dans la CEDEAO, j'ai quand même été déçu de son silence. Pendant une semaine, il n'a rien dit. Je ne veux pas dire qu'il a laissé faire. Je ne veux pas dire qu'il a laissé faire, mais son silence, il aurait dû prendre cette décision tout de suite. Dès que les événements ont commencé, il aurait dû prendre cette décision. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Il n'y aurait peut-être pas eu autant de morts aujourd'hui. Mais malheureusement, le mal est fait. Les gens sont morts. Et en Afrique, c'est toujours... Le médecin arrive toujours après la mort, malheureusement, en Afrique.
Merci beaucoup, Brice-Dette. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission préparée par Jessica Taïeb, Yasmine Boulan, Quentin Ferral et Audrey Taïeb, réalisée par Pauline Leduc avec, pour les appels, Benoît Vandenbroek. Demain, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. Vous pouvez réagir au sujet de votre choix. Priorité santé, c'est dans 10 minutes avec Céline Guillaume. Bonjour Céline.